les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. C'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes les élèves du collège Henri Dunant, à savoir Abdoul, Sébastien, Lia, Esteban et moi-même, Alia. Aujourd'hui, on vous propose une émission sur l'art plastique.
Pour cela, nous avons rencontré enragé graffeur, Cécile Marical, prof de dessin, et Frédéric Biel, prof de BD à la Maison des Arts. Et on a pu parler aussi avec Vincent Connectable, professeur de photo à la Maison des Arts, et Nadia Passé, la secrétaire. On vous propose d'écouter ça tout de suite.
C'est trop bien la radio!
Principe Actif, 102.4 FM.
Que pensez-vous de l'art?
Ah, l'art, j'adore, je suis très adepte, j'aime beaucoup. Principalement la sculpture, mais évidemment la musique par excellence, la photographie, franchement, je suis adepte, très.
Eh bien, je vois qu'à Évreux, on a fait un petit effort, on a un parcours de sculpture en ce moment, c'est formidable.
De l'art, c'est très important, l'art, dans la vie de tout le monde, c'est enrichissant, c'est beau à regarder.
J'en sais rien.
L'art, c'est beau. J'adore.
L'art, c'est quelque chose qui nous reflète un petit peu, qui reflète l'humanité, certainement. On retrouve pas mal de choses, les tableaux, les monuments, la télévision, enfin, toutes ces choses-là qui mettent en valeur un petit peu ce que l'homme peut faire.
Bonjour, aujourd'hui nous nous trouvons avec Madame Nadia Passé, secrétaire de la Maison des Arts. Nous allons vous poser quelques questions. Alors, quels sont les cours enseignés à la Maison des Arts?
Alors, nous avons plusieurs cours, du lundi au samedi, en après-midi et en soirée.
D'accord. Quels sont les modèles d'inscription ici? Et que sont les tarifs enfants et adultes?
Alors, en fait, quand vous êtes intéressé par un cours, il faut remplir une fiche d'inscription. Suite à ça, vous avez le droit à un cours d'essai. Au-delà du cours d'essai, où ça vous convient, et on voit pour la cotisation, où ça vous convient pas, et à ce moment-là, on vous raye de la liste. On prend des inscriptions tout au long de l'année, suivant les places disponibles dans les ateliers. Et quant aux tarifs, en fait, c'est propre à chacun, puisque ça dépend aussi des revenus. Si vous habitez Évreux, hors Évreux, si c'est pour les enfants, c'est un tarif spécifique avec des tranches qui vont de 1 à 7.
D'accord. Dernière question. Combien y a-t-il d'élèves au sein de la structure?
316 inscrits.
Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Au revoir.
Au revoir à vous et à bientôt.
Merci. Bonjour, aujourd'hui nous nous trouvons avec monsieur Vincent Connétable, photographe et professeur de la Maison des Arts.
Bonjour.
Bonjour, nous allons vous poser quelques questions. Alors, à quel âge avez-vous commencé la photo?
Alors, j'ai commencé la photo concrètement quand j'avais 10 ans, je pense. La première fois que j'ai vu comment développer un film et comment développer une image dans une chambre noire, je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Et là, je me suis dit, c'est carrément dingue, il faut que je fasse ça.
Y a-t-il des appareils photo différents en fonction du type de photo?
Alors oui et non, c'est-à-dire que tu peux faire toutes les photos avec n'importe quel appareil, mais par exemple, tu connais sûrement le Polaroid, tu vois, où tu as une photo qui sort tout de suite et qui aura un grain, un style spécial. Après, tu as des chambres qui font des grands négatifs, tu as des appareils compacts, ton téléphone fait des images. Donc après, il y a plein d'appareils photo, plein de modèles qui te permettent effectivement de faire des images différentes en qualité et en rendu.
Y a-t-il différentes techniques pour prendre une photo?
Ah, il y en a plein de techniques pour prendre une photo, mais la première qu'il faut avoir, c'est l'œil. Il faut avoir un bon œil, et puis surtout après, trouver des choses qui soient bien éclairées. Parce que photographie, ça veut dire en grec, écrire avec la lumière, figure-toi. Je ne sais pas si tu parles le grec.
Non.
Non.
Quel cours avez-vous suivi pour faire ce métier ?
Alors moi, j'ai fait l'école des Gobelins, qui est une école à Paris relativement reconnue pour tout ce qui est plus technique qu'artistique au départ, même si on a une grande culture de l'histoire de la photo. Mais voilà, l'école des Gobelins qui a nourri plein de grands photographes célèbres, dont je ne fais pas partie.
Comment vous êtes-vous lancé dans cette carrière de photographe ?
Eh ben, un peu par hasard, en fait. Je t'avoue, quand j'ai raté une deuxième fois mon bac et qu'on pouvait encore rentrer au Gobelin sans avoir le bac, il s'est avéré que j'ai réussi le concours. C'est une sorte de miracle et peut-être un signe, finalement, qui fait qu'aujourd'hui, je suis photographe.
Préférez-vous être professeur ou être derrière l'objectif?
Ah ben, les deux sont très intéressants, en fait. Et ça, enfin, ça fait 2 ans que je suis professeur, donc j'ai un peu découvert ce que c'était. Et c'est un vrai plaisir de passer un certain temps quand t'as une pratique, une maîtrise, en fait, d'une pratique comme ça. C'est de la transmettre, et en particulier aux jeunes, c'est vraiment super chouette et super intéressant. Et sachant que même moi, j'apprends avec les élèves à qui j'enseigne la photographie. Parce que des fois, ils ont des questions auxquelles je sais pas répondre, donc ça m'oblige à creuser aussi.
Combien coûtent les cours de photo ?
J'en ai pas la moindre idée. En fait, ça dépend de si t'habites Évreux, si t'habites pas Évreux. Ça dépend de ton quotient familial. Mais alors, moi, tout ce qui est administratif, c'est pas trop mon truc. Donc ça, tu pourras poser la question à Nadia, qui est juste au-dessus.
Combien d'élèves y a-t-il ?
J'ai 3 cours à la Maison des Arts, dont un pour les ados où j'ai 7 élèves, et après l'équivalent aussi sur les 2 cours que j'ai pour les adultes. En gros, ça oscille entre 5 et 10 élèves en fonction du jour et de l'heure.
D'accord. Et dernière question, peut-on être prof de photo et avoir un autre métier derrière ?
Oui, et vaut mieux d'ailleurs. Moi, dans mon cas, je suis prof de photo et photographe aussi, comme ça, ça me permet aussi de continuer à pratiquer ce que j'enseigne, ce qui n'est pas plus mal non plus.
D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Au revoir.
Au revoir.
D'accord. Quelle sculpture vous parle le plus ?
Eh bien, celle qui est actuellement au jardin public et qui représente un homme avec un aigle.
Alors là, j'aime beaucoup, dans ce qui se fait, les sculptures de Georges Goupil.
Sculpture, j'aime beaucoup la Vénus de Milo. Tu connais ?
Non. Toutes ?
Moi, je dirais plutôt le pont de New York. Je sais pas, ça c'est vu comme un monument, mais ce qui fait que ça relie 2 peuples différents.
Rodin.
Quelle sculpture ? Il suffit d'aller au musée du Louvre à Paris pour voir la Vénus de Milo, enfin toutes ces choses-là.
Sugi sa 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 sug
Respirez à fond.
Principe actif, 102.4 FM.
Qu'est-ce que vous dessinez quand vous vous ennuyez?
Je ne dessine pas parce que je dessine très mal. Je suis plutôt littéraire, j'écris, mais je dessine très mal.
C'est horrible.
Qu'est-ce que vous dessinez quand vous vous ennuyez?
Je ne dessine pas parce que je ne sais pas dessiner.
Ce que je dessine, des oiseaux.
Je ne dessine pas.
Des personnages, Disney.
Des nuages.
Je dessine pas, malheureusement.
Bonjour, aujourd'hui nous nous trouvons avec Cécile Marical, professeure de dessin et peinture. Bonjour.
Bonjour.
Nous allons vous poser quelques questions. Alors, à quel âge avez-vous commencé le dessin?
Alors, je ne peux pas dire un âge où j'ai commencé parce que j'ai l'impression que ça ne s'est pas arrêté et qu'il n'y a pas eu un moment où ça a commencé, que ça a toujours été. Voilà. Je me dis pas à 9 ans, j'ai commencé à dessiner ou même j'étais déjà à la maternelle, je dessinais. Il n'y a pas de début.
D'accord. Est-ce que au début ça a été dur?
Alors, qu'est-ce qui a été dur?
De commencer le dessin.
Non, ça n'a pas été dur. Après, j'ai dessiné avec les capacités de l'âge que j'avais. Et voilà, et ça m'a suivi en grandissant. Mais j'ai pas de souvenir de difficulté, d'une chose laborieuse.
D'accord.
Comment vous êtes-vous lancé dans cette carrière ?
Alors, je me suis lancée dans cette carrière parce que c'était une évidence, parce que c'était, je me suis même pas posé la question. C'était ça, mon histoire. Voilà, avec le dessin, la peinture. Je travaille aussi en tant que plasticienne pour une compagnie de théâtre. Enfin, tout ce qui est médias artistiques m'intéresse, mais même les livres, le cinéma. Voilà, c'était là où je sentais que j'avais ma place, quoi.
D'accord. Quel cours avez-vous suivi ?
Alors moi, quand j'étais adolescente, j'ai suivi des cours ici même, parce que j'étais au lycée à Évreux, à Aristide. Et donc j'ai connu la Maison des Arts quand j'étais en quatrième. J'y suis restée jusqu'en terminale, donc je suis restée longtemps avec un professeur à l'époque qui s'appelait Christian Ferré. Et donc on faisait du dessin, de la peinture, j'ai fait de la gravure aussi. Et donc j'ai eu un bac art plastique. Et ensuite j'ai été prise dans une école d'art qui s'appelle l'école Olivier de Serres à Paris. Et où j'ai fait mes études. Et ensuite, j'ai passé un master d'art plastique dans une université à Paris aussi pour pouvoir enseigner. Et donc, pendant 10 ans, j'ai été dessinatrice textile à Paris. Et ensuite, à 30 ans, j'ai commencé à être prof, à transmettre, en fait.
Quels conseils pourriez-vous donner à une personne qui voudrait apprendre le dessin ?
Ben alors moi, je considère que le dessin, c'est comme le violon. C'est-à-dire, il faut dessiner. Au début, quand on commence avec le violon, on fait des fausses notes, c'est une absolue catastrophe. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, ben voilà, on s'adapte à l'instrument, ça devient l'ami et tout ça. Et ben, le dessin, c'est pareil. Il faut dessiner. Il faut dessiner tous les jours. Il faut venir dans les ateliers. Il faut essayer des trucs qu'on ne connaît pas. Il faut rencontrer des profs différents aussi, parce qu'ils ont chacun un monde. Donc... voilà, il faut être curieux.
Quel matériel utilisez-vous ?
Alors, quel matériel j'utilise pour dans les ateliers comme prof ?
Oui.
Eh ben, plein de matériaux. J'aime bien enseigner les techniques mixtes, c'est-à-dire mélanger des techniques qu'habituellement on ne mélange pas forcément. Et puis, j'utilise du fusain, du crayon gras, enfin tous les médiums de dessin, et puis la peinture, et je suis prof de gravure aussi. Donc aussi l'encre de gravure, la presse. La gravure, l'idée c'est de travailler une plaque, de la graver, c'est-à-dire d'inciser, qu'il y ait des creux dans cette plaque, de l'ancrer et de faire une impression.
D'accord.
Que pensez-vous de l'art de la préhistoire ?
Alors, l'art de la préhistoire, alors ça me sert beaucoup, l'art de la préhistoire, dans la parole, parce que souvent je dis... C'est-à-dire, on annonce toujours la mort de la peinture. Alors moi, je dis, mais voilà, depuis Lascaux, on peint. Alors on serait bien prétentieux, nous, à notre époque, de signer la mort de la peinture, alors qu'elle est née avec l'humanité et qu'elle mourra avec. Voilà, c'est en ça que je me sers de cette peinture de la préhistoire dans la parole. Après, je trouve ça absolument fascinant d'imaginer qu'il y ait des gens qui étaient vraiment des artistes, parce que c'est pas juste du dessin, c'est vraiment un travail artistique. À l'époque, qui a déjà ça, quoi. Qui a déjà des gens qui soient animés par ça.
Exprimez-vous des sentiments quand vous dessinez ?
On exprime toujours des sentiments quand on dessine, mais surtout la question du dessin et de la peinture, c'est la question de la pensée. C'est-à-dire quand on, il n'y a pas moins de pensée dans une peinture qu'il y a dans un livre ou dans de la musique, c'est une pensée. Donc la façon de peindre, la façon qu'on a de choisir le sujet, de disposer les couleurs, etc., c'est déjà de la pensée. Donc s'il y a pensée, il y a sentiment.
Donnez-vous souvent des conseils aux gens qui en ont besoin ?
Bah, c'est un peu mon métier.
C'est ce que je fais.
À qui s'adressent les cours de dessin ?
Alors, dans la Maison des Arts ou en ce qui me concerne ?
À la Maison des Arts.
À la Maison des Arts, alors, ça s'adresse à tous. C'est ça l'idée de la Maison des Arts, c'est que tous les gens qui ont envie de pratiquer le dessin peuvent pratiquer le dessin. Ça peut être des petits, des adolescents, des gens qui veulent faire des écoles d'art, des adolescents qui veulent faire ça pour le plaisir, des adultes, des seniors, enfin voilà, c'est ouvert à tous. On accueille plein de gens très différents et qui sont de milieux aussi différents Et il y a aussi des gens qui viennent des hôpitaux de jour d'Évreux. Il y a aussi des gens qui viennent de l'association Éducation et Formation. Il y a plein de gens très différents qui passent dans la Maison des Arts.
Et toi, c'est quoi tes élèves ?
Et moi, mes élèves, c'est... je travaille avec des patients, des patients de l'hôpital de jour de Saint-Aurin, de la réhab de l'hôpital psychiatrique, et avec des gens de l'association Éducation et Formation, qui sont des gens qui sont arrivés en France, qui sont pas tout à fait des primo-arrivants, mais qui sont arrivés en France il y a à peu près 2 ans, et qui commencent à suivre une formation d'alphabétisation, de sensibilisation, voilà, à la vie citoyenne française, et puis au milieu du travail, qu'ils puissent avoir les clés pour pouvoir travailler et être bien ici.
Qu'est-ce qu'on fait pendant les cours ?
Alors, qu'est-ce qu'on fait que je n'ai pas dit ? Ce qu'on fait que je n'ai pas dit, c'est qu'on regarde. Donc, voilà, moi, je considère que les gens, déjà, la première chose, c'est apprendre à regarder. Puis apprendre à regarder, c'est bien parce que ça ne s'arrête pas juste dans l'atelier. Apprendre à regarder, après, ça veut dire que quand on est dans la rue, ben, on va voir les choses différemment parce qu'on a appris à regarder différemment. Puis d'un coup, la vie, elle va être beaucoup plus passionnante parce qu'on va voir les choses autrement.
Vous prenez combien d'élèves par cours ?
Eh ben, c'est à peu près... entre 12 et 17, 18 élèves à peu près. Il ne faut pas trop de gens, parce qu'après on n'a pas le temps de s'occuper d'eux, c'est pas bien. Donc pour que ce soit confortable, c'est une quinzaine de personnes. Ouais.
À quelle fréquence ont lieu les cours de dessin ?
En général, les gens, ils ont un cours hebdomadaire. Alors il y a des gens qui en prennent plusieurs, qui prennent 3 cours... Qui viennent plusieurs fois, mais en général c'est un cours par semaine, si on doit faire une généralité. Un cours de 3 heures pour les adultes ou les ados, et un cours de 2 heures pour les enfants, c'est plus court parce que c'est une histoire d'attention.
Avez-vous un site internet ?
Non, je n'ai pas de site internet. Enfin, la Maison des Arts a un Facebook, mais moi j'ai pas de site personnellement.
Faites-vous des expositions ?
Alors oui, je fais des expositions, mais surtout je travaille avec une compagnie de théâtre qui s'appelle Us et Coutumes. Alors elle est basée en Gironde, donc c'est pas tellement sur la vie locale, mais voilà. Et donc on vient de réaliser une pièce de théâtre qui s'appelle Agathe Hachou, qui est sur la question du génocide des Tutsis du Rwanda en 1994, et donc moi j'étais plasticienne pour cette compagnie, c'est-à-dire je travaille avec le metteur en scène et comment la peinture, l'ombre, la lumière rentrent dans la question du théâtre. C'est pas la question du scénographe, c'est-à-dire celui qui va faire les objets, etc. C'est vraiment autre chose, le rôle de plasticien.
Dernière question, avez-vous déjà illustré un livre ?
Alors non, j'ai jamais illustré un livre. Je n'ai jamais illustré un livre, mais j'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de livres qui ne sont pas forcément édités, mais la forme livre est une forme qui m'intéresse, et j'ai beaucoup fait ça avec les gens ou des catalogues, ou voilà.
D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.
Ben, merci à vous.
In the basement flat by the garages where the people dump their mattresses, Esther's in her kitchen making sandwiches. The slats on her blinds are all wonky and skewed. You can see her from the street before she moves out of view to kick her boots off tired feet. She wipes her forehead with her wrist. She's just back from a double shift. Esther's a carer, doing nights. Behind her on the kitchen wall is a black and white picture of swallows in flight. Her eyes are sore, her muscles ache, she cracks a beer and swigs it. She holds it to her thirsty lips and necks it till it's finished. It's 4:18 a.m. again. Her brain is full from all she's done that day. She knows that she won't sleep a wink before the sun is on its way. She's worried about the world tonight. She's worried all the time. She don't know how she's supposed to put it from her mind. Lost.
America lost, London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. System's too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs. And there's 2-for-1 drinks in the clubs. And we scrubbed up well, washed off the work and the stress. And now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow. All of the bodies that fell. The roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands. The buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely. We move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want. And dancing the drudgery off. But even the drugs have got boring. Well, sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach. To eat, to dream, don't weep, don't scream. Just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up? I feel the cost of it, pushing my body like I push my hands into pockets. And softly I walk and I see it, this is all we deserve. The wrongs of our past have resurfaced despite all we did to vanquish the traces. My very language is tainted with all that we stole. To replace it with this, I am quiet, feeling the onset of riot. Riots are tiny, those systems are huge. Traffic keeps moving, proving there's nothing to do. Cause it's big business, baby, and its smile is hideous. Top down violence and structural viciousness. Your kids are dumb. Stopping. Medical said it is, but don't worry about that, man. Worry about terrorists. The water level's rising. The water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spill? Shh. No one likes a party pooping spoil sport. Massacres, massacres, massacres. New shoes. Ghettoized children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation lives beneath the red line. Oh, but it's happy hour on the high street. Friday night at last, lads, my treat. All went fine till that kid got glassed in the last bar. Place went nuts, you can ask. I knew it was madness. Roll ran red, pure clavit. And about them immigrants, I can't stand them. Mostly I mind my own business. They're only coming over here to get rich, it's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager. Pray for a raise, cross the bays, days off on your beach, babe. Calendar, the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Politico cash in an envelope. Court sniffing lines off a prostitute's prosthetic tits. Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They have got kids and fucked their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of spliffs? Jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the bored of it all generation. The product of product placement and manipulation. Shoot 'em up brutal, duty of care. Come on, new shoes, beautiful hair. Bullshit, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. And here's me, outside the palace of me. Construct of self and psychosis. Meanwhile the people were dead in their droves. And no, nobody noticed. Well, some of them noticed. You could tell by the emoji they posted. Sleep like a gloved hand covers our eyes. The lights are so nice and bright and let's dream. But some of us are stuck like stones in a slipstream. What am I gonna do to wake up? We are lost, we are lost, we are lost. And still nothing will stop, nothing pauses. We have ambitions and friendships and courtships. To think of divorces, to drink off the thought of the money, the money, the oil. The planet is shaking and spoiled. And life is a plaything, a garment to soil. Toil the toil. I can't see an ending at all, only the end. How is this something to cherish when the tribesmen are dead in their deserts? To make room for alien structures. Develop, develop and kill what you find. If it threatens you, no trace of love. In the hunt for the bigger buck. Here in the land where nobody gives a fuck.
Principe actif. Actif par principe. 102.4 FM. 102.4 FM. 102.4 FM.
C'est quoi le graffiti pour vous ?
C'est un art quand on parle de graphe. Le tag, c'est peut-être un peu... Mais historiquement, c'est comme ça aussi, ça s'est construit dans la sémantique du mot. Le graphe, c'est vraiment... c'est construit, c'est artistique.
C'est quoi le graffiti pour vous ?
C'est une forme d'expression.
Il paraît que c'est un art, s'il est joliment fait, oui.
Le tag.
C'est de l'art. Le graffiti, c'est de l'art pour moi. Chacun à sa manière, quoi. C'est de l'art.
Alors, le graffiti, j'aime beaucoup. Ça s'appelle de l'art urbain, en fait. Hein, donc, quand c'est bien fait, c'est très joli, très joli. Par contre, je déplore un petit peu les graffitis sauvages.
Voilà. Bonjour, nous sommes en présence de Olivier, alias Enragé, qui est notre nouvelle invitée.
Bonjour Olivier.
Bonjour.
Pour vous, l'art est un loisir ou un métier ?
Alors pour moi, l'art en premier lieu est une passion, donc un loisir.
Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans le graffiti ?
Alors, ce qui me fait plaisir dans le graffiti, c'est les couleurs. Et en fait, à la base, c'est la déconstruction de la lettre.
Qu'est-ce que la déconstruction de la lettre ?
Alors en fait, c'est écrire des lettres. Et dans le graffiti, on écrit des lettres. En fait, on vient les changer. On vient leur apporter des différences par rapport à l'écriture normale qu'on peut apprendre à l'école. On leur apporte du style, en fait. Voilà.
Ça signifie un peu quoi, votre dessin ? Du coup,
Principalement, on écrit, on vient dessiner sur les murs notre pseudonyme en fait. Voilà. Ou alors, si c'est pas notre pseudonyme, ça peut être des personnages, des décors, voilà, toutes sortes de choses.
Des messages à peu près.
Et des messages aussi.
Est-ce que vos bombes de peinture sont dangereuses ?
Bah, en premier lieu, non, les bombes de peinture ne sont pas dangereuses. Après, tu peux t'en servir comme une arme parce qu'une bombe de peinture est inflammable.
À partir de quel âge peut-on commencer à faire du graphe ?
Alors, commencer à faire du graphe, il n'y a pas forcément d'âge. Après, commencer à se servir d'une bombe de peinture, en général, il faut avoir de la force dans l'avant-bras, en tout cas celui que tu te sers pour écrire. Donc, tu peux utiliser une bombe de peinture à partir de 12 ou... Voilà, entre 10 et 12 ans, quoi.
Et si c'est pas les bombes de peinture que vous utilisez quoi ?
Eh ben, tu utilises des critériums déjà pour faire des maquettes sur feuilles blanches, chez toi. Et après, tu as des feutres à l'acrylique comme les Posca. Et tu peux aussi te servir de pinceaux, voilà. Toutes sortes de choses qui te servent à créer et à imaginer un peu ce que tu as envie de faire.
Ah, en gros, ça veut dire que vous dessinez d'abord avant de graffer.
Principalement, oui. Après, c'est chacun fait comme il veut, mais t'as beaucoup de graffeurs qui utilisent une maquette avant d'intervenir sur un mur, en fait. Donc la maquette, tu la crées principalement chez toi ou même tu peux la créer directement devant le mur. Et après, en fait, t'as un exemple pour pouvoir agir sur le mur.
Merci.
Et êtes-vous contre les personnes qui n'aiment pas le graphe ?
Bah non, écoute, chacun est propre d'aimer ce qu'il a envie dans la vie. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Pour vous, le graphe, c'est illégal ou pas, d'après vous ?
Est-ce que c'est illégal ou légal ?
Oui, le graphe.
Alors en fait, c'est les deux. T'as le graffiti qui peut être illégal, donc celui que tu fais sans autorisation préalable d'une mairie ou je ne sais quelle structure privée ou de l'État. Après, tu as le graffiti légal où on te fait des commandes et où tu as des murs qui sont alloués pour pouvoir peindre dessus, légalement. Voilà.
Ah bah, c'est cool tout ça.
Exactement.
Un peu comme le mur de notre collège, il a été graffé.
D'accord. Alors, voilà, donc c'est certainement une commande soit de la direction de votre collège, et un graffeur intervenu, peut-être avec des élèves de votre collège, pour réaliser une fresque dessus. Voilà.
À quel âge avez-vous commencé le graphe ?
Alors, j'ai commencé le graffiti vraiment, l'usage de la bombe aérosol vers 18 ans.
Ça vous parle un peu le street art ?
Ça me parle un petit peu le street art, ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez de Banksy ?
Bah écoute, Banksy c'est un artiste street art, voilà, mais en fait lui ce qu'il fait, moi ne m'intéresse pas forcément, parce que c'est plus du collage et en fait il s'approprie un peu l'espace urbain, si tu veux, tu vois. Moi je suis vraiment lié à la culture graffiti, et donc moi ce que j'aime particulièrement c'est les lettres, voilà, c'est l'abécédaire et c'est le déstructurer et le changer. Après je fais beaucoup d'autres choses, hein. Je fais aussi des décorations, des ateliers, je fais plein de choses, mais Banksy je respecte, mais c'est pas forcément ce que j'aime le plus.
Et en plus qu'il fait les choses illégalement.
Il fait aussi les choses illégalement, ouais. Exactement.
Vous faites des ateliers graphes ?
Alors, je fais des ateliers graphes donc avec plusieurs structures, que ce soit associatives ou avec l'éducation nationale. Et donc, je fais des ateliers toiles, où on réalise des petites toiles, hein, format 30 par 40, où on vient faire le fond à la bombe. Et après, on vient faire un graffiti dessus avec des feutres Molotto, qui sont des feutres à l'acrylique, spécialisés pour pouvoir peindre sur une toile.
Vous avez déjà graffé dans les rues ?
J'ai déjà graffé dans les rues, ouais. Et puis ça m'arrive encore aujourd'hui.
Est-ce que vous touchez de l'argent quand vous faites du graffiti comme ça et tout ?
Alors, en fait, moi, j'ai professionnalisé ma passion, en fait. Donc aujourd'hui, je travaille pour ma passion. Donc effectivement, quand on me commande des choses, je réalise des devis et donc derrière des factures qui me permettent de vivre de mon métier.
Ah, intéressant.
Est-ce que vous, il y a des peintres qui vous ont parlé, enfin
inspiré? Ont,
oui, voilà.
Ah, il y a énormément de peintres, enfin en tout cas pas de peintres, mais de graffeurs qui m'ont inspiré durant ma jeunesse et même encore aujourd'hui. Hein, de toute façon. En fait, si tu veux, l'artistique ou même par exemple le sport, tu es toujours obligé de regarder un petit peu ce que les autres font aussi pour pouvoir aussi évoluer un petit peu toi et te remettre toujours en question par rapport à ce que tu fais. Voilà.
Pour avoir des idées. Des noms?
Comment?
Vous pouvez citer des noms?
Ah, je peux t'en citer plusieurs. Je peux te citer des gens comme Cantu. Après, c'est pas forcément des personnes qui sont françaises. Mais je peux aussi te citer des noms d'amis que j'ai dans mes équipes qui sont français, comme par exemple Deli qui vient d'Evreux, Jao qui vient de Marseille, Onyx qui vient de Paris. Voilà, mais bon, après, il faut connaître un petit peu la culture pour savoir voilà, que ces noms parlent et qu'ils ont une importance dans cette culture.
Ah. Merci beaucoup, Olivier, de ces réponses.
Pas de soucis, merci à vous.
Bonne journée, au revoir.
Bonne journée, à bientôt. Ciao.
Revamp broken myth in American backwards, crisscross at the crossroad. Wallet full of dollars and the bad man breaks with a smile on his face. Model T hand bone, Tommy gun radio. Blood on the line when the gang hits ties. Gather up this dust, the devil is dust. And he's swirling the world in the smallest size. Yeah. Rise up, make him feel this heat. Lather up, make him feel this heat. Make 'em feel this heat. Lighting up, make 'em feel this heat. How you give birth to Gregory of the planet? Juju from a bottle, cheap blood from bones. How you give birth and not be bitter when you gotta open up for the Rolling Stones? Happy bastards. Nuff said already, been dead already, but they still feel pain. Captain of the backhand, tragedy of all men oppressed, be depressed at the drop of a dime. Jerusalem to Salem, Gentile to pagan. This is the base of the ultimate crime. All I know is we losing our minds, and I know running out of time. Say, hold it back in, hold it back in. Loving up, make her feel that heat. Rise up, make her feel that heat. Hold it back in, hold it back in. Loving up, make her feel that heat. Property hitting up bush, blood on the name when the soul is stained. Everybody get ready to get let off the hook, but it taking any man to hook them up again. But we already been down that road, don't need to go there no more. Walking round with nothing to do, walking round like we gonna go to.
this heat. J'ai l'intention de tenir l'antenne 24 heures sur 24 jusqu'à ma mort. Et puis même encore après s'il le faut.
Mais tu crois pas que ça pourrait peut-être finir par être légèrement monotone comme expérience pour l'auditeur ?
Principe actif, 102.4 FM.
Quel genre de manga ou BD lisez-vous ?
Manga aucun. BD, la BD oui, puisqu'on a une super petite librairie depuis quelques années, BD Libre. Donc surtout j'offre en cadeau. En cadeau parce qu'il y a des thématiques diverses et variées et qu'on trouve toujours quelque chose, surtout aux hommes. C'est difficile d'offrir des cadeaux aux hommes ou aux jeunes garçons et on trouve tout chez BD Libre. Alors je fais de la pub, mais bon, voilà.
Quel genre de manga ou de BD lisez-vous ?
Je lis toutes sortes de BD, dont une série qui s'appelle Black Sad.
Ah, moi, vu mon âge, je ne lis aucune BD. Je suis désolée.
Aucun.
Je lis pas de manga ni BD.
Les BD de The Walking Dead.
Alors aucune, à mon âge aucune.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la Maison des Arts et nous nous trouvons avec Monsieur Biel, dessinateur et professeur. Que pensez-vous des BD manga ?
Dans BD manga, il y a BD, donc pour moi ce sont des bandes dessinées comme les autres. Voilà, simplement elles sont faites par des Japonais ou par des auteurs qui aiment beaucoup le manga en Europe et qui ont envie de faire un peu pareil. Voilà. Donc je trouve que c'est de la bande dessinée, voilà, comme celle qu'on pratique ici en Europe, sauf que elle est nourrie d'autres traditions. Il y a d'autres méthodes parce qu'on on raconte des histoires sur plus de temps, mais je vois pas trop de différence. C'est une question de style, une question après de rythme, mais c'est pour moi c'est la même chose. Voilà.
D'accord. Faut-il être obligatoirement plusieurs pour faire une BD ou un manga, ou on peut être tout seul ?
Alors, on peut être tout seul. Il se trouve que la pratique de ce qu'on appelle les mangaka est plutôt un travail en atelier, un peu comme c'était d'ailleurs chez nous le cas il y a une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'années, où il y avait effectivement un peu, on va dire, l'auteur principal, celui qui faisait les décors, les véhicules, les avions, je sais pas quoi, l'ancrage, bon, il y avait comme ça pour des questions de rentabilité, pour que ça aille plus vite, une répartition des tâches. Bon, ça se fait encore comme ça en fait au Japon parce que ce sont des mangas, enfin les mangas sont des bandes dessinées qui paraissent souvent à un rythme assez soutenu, assez rapide, donc il faut qu'il y ait des centaines de pages qui sortent par mois, ce qui fait qu'un auteur de manga dans sa vie il a produit des milliers voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de pages, pendant qu'un auteur occidental en a concocté quelques centaines, ben, ou quelques, allez, oui, quelques centaines. Mais le rythme n'est pas le même. Et il y a effectivement plus chez nous la notion d'auteur. Enfin, quand je dis chez nous, c'est en Europe, la notion d'auteur. C'est-à-dire que c'est une personne ou deux, donc un dessinateur et un scénariste qui souvent, comment dire, travaillent ensemble, voilà, sur une bande dessinée. Au Japon, c'est un petit peu finalement un peu comme aux États-Unis, parce que dans ces deux pays, les auteurs de BD travaillent souvent pour la presse, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant chez nous. C'était le cas donc il y a 30 ou 40 ans. La presse, eh ben, ça sort tous les jours ou toutes les semaines, donc il faut vraiment produire beaucoup. Si vous lisez des comic books, des aventures des super-héros, Marvel et tout ça, vous verrez souvent qu'il y a un dessinateur, un encreur, un lettreur, un scénariste, il y a plein de gens. C'est un peu presque comme un générique de film. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un petit peu ça. Et au Japon, par contre, il y a un seul auteur qui signe souvent. C'est le mangaka en chef, c'est le maître, quoi. Et en fait, il y a toute une équipe qui a travaillé pour lui. Un peu comme pour les aventures de Tintin, il n'y a que Hergé qui signait, mais au moins dans une partie de sa carrière, pas au début. Il y avait tout un atelier, on appelait ça le studio Hergé qui travaillait pour lui, en fait. Et c'était cet ensemble de collaborateurs qui signait Hergé. Et il signait Hergé parce que c'est quand même lui qui était vraiment la, disons, l'âme, c'est lui qui donnait les pistes, c'est lui qui avait les idées d'histoire, et Tintin, c'était un peu lui, voilà. Donc là, il y a encore une notion d'auteur, alors que c'est tout un groupe qui travaille, voilà. Donc ça dépend vraiment, voilà, de pays, d'époque, de tradition.
Avez-vous suivi des cours ou c'est venu naturellement votre don pour le dessin ?
Bon, alors c'est ce que je dis à mes élèves, je ne crois pas au don. L'histoire du don, ça vient d'une époque où on avait l'impression qu'il y a des choses qui tombaient comme ça, qui nous tombaient du ciel, et qui étaient des dons, des esprits, des dieux, je sais pas, et qui déterminaient que telle personne était douée de quelque chose, était douée en sport, était, je sais pas, c'était un magnifique guerrier, c'était, voilà. Et un grand artiste, non, le don, voilà, c'est un don, ça vient de donner, hein, voilà. Donc, et en l'occurrence, je ne crois pas en fait à ça. Donc, je pense que c'est une question de travail et d'envie. Et si don il devait y avoir, il y a simplement cette envie de faire quelque chose, peut-être parce qu'on y a été confronté souvent pendant l'enfance. Et ce qu'on a rencontré pendant l'enfance, pour peu qu'on s'y soit reconnu, ça nous porte ensuite. Et certains d'entre nous, pas tous, malheureusement, certains d'entre nous ont cette espèce de désir que ça continue et de faire eux-mêmes, pratiquer eux-mêmes ce qui les a fait rêver ou ce qui les a portés quand ils étaient enfants. Voilà. Ça peut être n'importe quoi, du football, du cinéma, de la bande dessinée, enfin voilà, il y a des tas de choses. Et puis parfois, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Si on étudie un petit peu la vie des, mettons, des auteurs de bandes dessinées, on pourra voir que certains ont une envie chevillée au corps de faire de la BD depuis qu'ils sont tout petits. Et d'autres, simplement, ils aiment bien le dessin, ou ils aiment bien raconter des histoires, et le hasard, les rencontres, le destin, on ne sait pas trop, font que ils sont amenés petit à petit à entrer dans ce milieu-là, voilà. Et c'est presque par hasard qu'ils se retrouvent, c'est un peu mon cas, qu'ils se retrouvent à faire de la bande dessinée, voilà. Donc moi j'ai pas appris, en fait, je n'ai pas fait d'école de bande dessinée, mais par contre j'ai toujours dessiné depuis que je suis tout petit, c'était un peu mon rapport au monde, je devais dessiner les choses pour me les approprier. Voilà. Et vers 18-19 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un ami à moi, qui était plus âgé, et qui m'a dit, écoute, tu dessines bien, moi j'aimerais écrire des scénarios, est-ce qu'on pourrait pas faire une bande dessinée ensemble? Et c'est ce qui s'est passé, et de fil en aiguille, j'en ai fait mon métier.
Quelle technique utilisez-vous?
Alors, en ce moment, le crayon et la gomme, c'est-à-dire que je ne fais que, là je fais une bande dessinée qui est en noir et blanc et qui n'est faite qu'au crayon, voilà, crayon, gomme. Il m'est arrivé d'utiliser de l'encre, alors de l'encre appliquée à la plume, au pinceau ou alors au feutre, donc ça dépend. Et pour la couleur, parce que je suis aussi coloriste, je mets en couleur quand il y a des couleurs, c'est moi qui m'en occupe, parce que ça fait aussi partie, ça, de ce qui est fait en studio dans les BD dont on a parlé tout à l'heure. Il y a le coloriste aussi, bon. Moi, c'est moi qui, en l'occurrence, c'est moi qui m'occupe de ça. Et là, j'utilise de l'aquarelle. Voilà, c'est de la peinture à l'eau. Voilà. Donc voilà pour la technique.
Qu'avez-vous fait comme BD ?
J'en ai fait plus d'une vingtaine, en fait, maintenant. Alors, pendant longtemps, j'ai fait plutôt de la bande dessinée historique. Alors, il se trouve que je fais de la, pour un peu cerner les choses, je fais plutôt de la BD réaliste. Donc c'est du dessin, enfin c'est pas du gros nez, c'est pas du. Si je devais, parce que je suis pas auteur de bandes dessinées comme 13 ou comme Largo Winch ou comme Tintin, tout ça. Donc c'est des bandes dessinées qui sont moins connues, qui sont connues par les amateurs de BD et encore pas tous. Et donc c'est de la BD réaliste. Voilà, ça ressemble un peu à la réalité ou en tout cas à la façon dont à ce qu'on voit autour de nous. Ça peut se rapprocher de dessins. Qu'est-ce que vous pourriez même certains dessins de manga qui sont plus réalistes, parce que c'est pareil dans les mangas. Si vous avez Tezuka qui faisait Astro Boy, on a un dessin qui fait un petit peu Disney, quoi, avec des grands yeux, tout ça. Et puis on a parfois des styles beaucoup plus réalistes. Bon, moi, c'est plutôt ce que je fais. Voilà. Donc, suivant ce que vous pouvez lire comme BD, imaginez le dessin le plus réaliste possible, voilà, dans ce que vous avez lu. Mon dessin ressemble à ça.
De quoi parlent vos BD ?
Alors, pendant longtemps, j'ai fait de la bande dessinée historique, plutôt, en tout cas qui se passait dans un contexte historique, beaucoup l'Antiquité, l'Égypte ancienne, le Moyen-Âge, l'Antiquité celtique, un peu l'Empire romain, voilà, et aussi le 19e siècle. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Actuellement, je fais une bande dessinée qui est inspirée par les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Donc là, ça se passe au début, dans le premier quart du 17e siècle. Voilà, entre 1625 et 1627-28. Pour être précis, j'ai aussi fait des bandes dessinées qui se passaient de nos jours, voilà, dans notre quotidien, notre époque, avec des téléphones, avec des ordinateurs.
Comment vous faites une BD ou un manga ?
Comment ? Alors, au départ, je pars d'un. Donc moi, c'est plutôt effectivement bande dessinée occidentale. Hein, bon, ce qui en fait. A beaucoup changé parce que avant, enfin mettons il y a encore une vingtaine d'années, quand on faisait de la bande dessinée en Europe, c'était forcément ça, la plupart du temps ça avait la forme d'un album de 46 pages avec parfois une série d'albums, un tome 1, un tome 2, voilà, donc c'était des séries. Maintenant on peut avoir une pagination beaucoup plus grosse, hein, donc on peut faire des livres qui font 200 pages. Bon, voilà. Donc la bande dessinée s'est vraiment enrichie dans ses formes. Hein. Il y a ce qu'on appelle le roman graphique, graphic novel, qui est un genre qui vient plutôt d'Amérique. Voilà, c'est eux qui ont inventé ça. Donc on a même parfois un mélange texte BD et on a des livres assez gros comme des romans. Comme je suis dessinateur. J'ai assez peu écrit de scénario moi-même, donc je suis plutôt dessinateur et coloriste. Eh bien, on me propose, la plupart du temps c'est comme ça, un scénario. Alors, un scénario, ça ressemble un petit peu au texte d'une pièce de théâtre. Il y a des dialogues, il y a un descriptif de l'action. Pour le cas de la bande dessinée, c'est découpé en pages. Voilà. Alors il y a page 1, case 1, le texte contenu dans les bulles, descriptif de la case. Bon voilà. Et il y a ça pendant 50, 100 pages. Voilà. Ça c'est ce que le scénariste a fait. Et moi, à partir de cet élément-là, je fais déjà une sorte de brouillon. Dans le domaine du cinéma, on appelle ça un storyboard, qui est déjà le découpage dessiné de l'album, en fait. Voilà, c'est-à-dire que c'est là que je définis comment seront les cases, puisque mon scénario me dit par exemple qu'il y a 8 cases. Bon, eh bien j'ai le choix entre faire des petites cases, des grandes cases, des cases à allonger dans un sens, dans l'autre. Voilà, donc, et c'est là que je décide, en fonction du contenu de la scène que je dois dessiner, de la forme de ces cases, parce que ça. Si vous en avez lu, si vous en lisez, vous voyez que le dessinateur de BD utilise cette séquence comme ça d'images, il les articule d'une façon à chaque fois différente pour créer une action rapide, lente, contemplative, violente. Bon, eh bien, il joue avec ce vocabulaire spécifique et celui de la BD. Et là, c'est là que moi, je suis le cousin, le frère d'un mangaka, d'un auteur de BD tchèque, je sais pas moi, ou coréen. Bon, voilà, parce qu'on a finalement là, c'est le même outil. Hein, bon, voilà. Donc, suivant ce que j'ai à raconter donc dans mon scénario, voilà. Donc, c'est là que je conçois le storyboard, qui est une sorte de brouillon. Là, je fais pas un dessin trop compliqué. Et ensuite, à partir de cette première étape, eh bien, je vais prendre une grande feuille, qui est souvent d'un format A3. Et là, je fais le dessin au propre, qui est beaucoup plus détaillé. Entre-temps, je me suis documenté sur ce que je dois dessiner, le décor, les accessoires. J'ai essayé dans des carnets ou dans des feuilles à part d'imaginer les personnages. Donc, je fais une sorte de casting, si vous connaissez ce terme-là. Comme dans un film, on choisit tel ou tel acteur. Bon, moi, j'essaye de choisir tel ou tel acteur pour la BD que j'ai à dessiner. Voilà, et ainsi de suite, jusqu'à la mise en couleur, si c'est nécessaire.
Bien, c'est la fin de cette interview. Merci, Monsieur Biel, d'avoir répondu à nos questions, et au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Les émissions des quartiers.
C'était impressionnant quand même.